Studio Tamani, voici nos informations en français.
À l'écoute des programmes du Studio Tamani sur l'ensemble de nos radios partenaires, il est 8h. Monsieur Dam, bonjour et bienvenue à la synthèse de cette édition matinale. Une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenue ce mardi 3 mai sur le Mali. Elle a été convoquée par les autorités russes. Cependant, aucune information n'a pour l'instant été filtrée sur cette rencontre. Bientôt 5 mois que le Mali est soumis à un embargo de la CEDEAO. Les deux parties n'arrivent toujours pas à avoir un compromis. Que faut-il pour sortir de cette crise? Les détails dans cette édition. Le Mali compte parmi les pays producteurs de mangue. L'usine de transformation de mangue située à 4 km de Yanfolila produit par jour plus de 240 tonnes de jus. Notre envoyée spéciale Juliette Koulibaly s'est rendue sur place. À la présentation, Mariam Maïga, Nohum Djeri assure la technique. La Russie a convoqué ce mardi 3 mai une réunion informelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Mali. Cette rencontre à huis clos intervient au lendemain de l'annonce de la rupture des accords de défense avec la France. Pour l'instant, rien n'a filtré de cette réunion. Mais dans les coulisses, la diplomate russe à l'ONU a rappelé que le Mali a récemment exprimé ses inquiétudes concernant les violations de l'espace aérien malien par la force française Barkhane. La France, quant à elle, qualifie une décision injustifiée des autorités maliennes. Le point avec Imrana Kilumaïga.
Dans une déclaration préliminaire, l'ambassadeur français à l'ONU, Nicolas de Rivière, a déclaré que c'est une bonne occasion de discuter de la situation. Selon lui, le Mali a passé des contrats avec des mercenaires privés et ils violent déjà les droits humains. Nous espérons qu'il y aura un certain degré de mise en responsabilité à ce sujet, a-t-il ajouté. Il est important d'en discuter au Conseil de sécurité les inquiétudes exprimées par les autorités maliennes concernant les violations de l'espace aérien par des forces étrangères. Cette déclaration est de Anna Eftetineva, ambassadrice russe adjointe à l'ONU. Cette réunion intervenait alors que la France a considéré la dénonciation des autorités malienne comme une décision injustifiée. Paris a réaffirmé en outre sa vigilance à l'égard de toute tentative de manipulation de l'information. Jean-Yves Le Drian a rappelé la détermination de la France à assurer la sécurité de ses soldats et ceux de l'Europe. De son côté, le gouvernement malien a dénoncé que malgré l'instauration d'une zone d'interdiction, les forces françaises ont procédé à plus de 50 violations de l'espace aérien malien par des aéronefs militaires.
Sur le même sujet, cette saisie du Conseil de sécurité par l'État russe pourrait signifier leur volonté de remplacer les Français ou de s'impliquer dans la lutte contre le terrorisme au Mali. C'est du moins ce que pense l'analyste Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur. Selon lui, le Mali est dans l'obligation de saisir le Conseil de sécurité pour acter la décision de sortie des accords de défense avec la France. Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur et analyste en diplomatie et en stratégie, est joint par Imrana Kilumaïga.
La Russie a saisi le Conseil de sécurité pour acter le fait que nous avons pris comme décision de nous sortir des accords de défense que nous avons signés en juillet 2019, plutôt, et non 2014, en 2019, avec la France. Donc, à partir de ce moment-là, c'est la Russie qui est membre permanente du Conseil de sécurité qui tente de faire donner l'information au Conseil de sécurité que le Mali souverainement a décidé de mettre un terme au traité de défense, de coopération de défense qu'elle a signé avec la France. C'était prévisible que ce genre de démarche aurait pu être pris en charge par ces États-là, je parle des Russes là, soit parce qu'on leur a demandé, je ne sais pas, ou soit par décision souveraine d'eux-mêmes.
À l'instant, Ibrahim Soumaré, ancien ambassadeur et analyste en diplomatie et en stratégie. Réagissez à toutes ces informations sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Twitter. La situation entre la CEDEAO et le Mali reste toujours tendue. Malgré les différentes propositions, les deux parties n'arrivent toujours pas à avoir un compromis. Que faut-il pour sortir de cette crise? Que pensent les universitaires de cette situation? Des éléments de réponse dans ce reportage de Mahaman Babakunta.
Pour aboutir à cette médiation, il faut l'engagement de toutes les parties. C'est ce qu'affirment certains universitaires. Cependant, le docteur Abdoul Sogo Dogo invite les autorités de la transition à proposer un chronogramme détaillé.
Il faut que la CEDEAO sache qu'elle ne sera pas en mesure d'imposer sa vision au Mali, que le Mali aussi soit conscient qu'il n'est pas en mesure d'imposer sa vision à la CEDEAO et que les deux ont beaucoup à gagner ensemble. C'est à ce prix-là qu'ils vont arriver à revoir un peu leur position pour arriver à une position médiane.
Pour l'ambassadeur Brahim Soumaré, le plus important est de mettre l'intérêt de la population au-dessus de tout. Toutefois, il se dit optimiste face à la résolution de la situation.
Je crois jamais à la rupture. Je crois que chacun a le droit d'avoir ses principes, mais le plus important, c'est la capacité que nous avons tout un chacun à pouvoir négocier et à pouvoir trouver un terrain d'entente dans l'intérêt supérieur de nos populations.
Notons que notre pays est sous embargo depuis le mois de janvier dernier et malgré les propositions des deux parties, la situation reste toujours tendue.
Un reportage signé Mahaman Babakunta sur un tout autre sujet. Attribution des logements sociaux, la deuxième tranche est composée de 1993 maisons au lieu de 2218. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat explique que la première liste comportait 225 bénéficiaires de plus avec de fausses notifications. Celle-ci a été annulée il y a plus de deux mois. Le point avec Adama Amadou Haïdara.
Selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, des enquêtes menées par la commission d'attribution des logements sociaux révèlent que la plupart des fausses notifications sont signées par des agents de l'Office malien de l'Habitat, OMH. Deux agents de l'Office sont ainsi placés sous mandat de dépôt et un autre reste introuvable. Ces notifications indiquaient que les logements sont attribués au titre de la première tranche des logements sociaux dont la liste a été publiée en 2019. Mais sur cette liste, les noms de ces personnes n'apparaissent pas. 187 personnes environ se trouvant dans cette situation ont été identifiées, annonce le ministre. Il précise aussi qu'une procédure pour expulser les personnes qui occupent illégalement ces logements est en cours. C'est donc ce qui expliquerait la non-attribution de ces logements lors de la deuxième tranche. De 2218, le nombre de maisons qui devaient être attribuées au titre de la deuxième tranche est ainsi passé à 1993. Le ministre souligne aussi qu'il y a des maisons inachevées.
Parlons à présent d'éducation. La reprise des cours prévus pour le 3 mai dernier n'a pas été effective ce mercredi dans certaines écoles privées et publiques de Bamako. Selon des responsables scolaires, cela s'explique par la fin de congé du deuxième trimestre qui a coïncidé avec la fête de l'Aïd el-Fitr. Ils estiment par ailleurs que c'est aux parents et au gouvernement de changer la donne. Notre reporter Fatih Yattara a fait un tour dans certaines écoles de Bamako.
Ce n'est pas du tout la grande foule, c'est mercredi matin dans certaines écoles privées et publiques à Bamako. À l'école publique Mamadou Diara de Midinakoura, en commune de Bamako, la direction estime qu'il faut établir un chronogramme convenable pour la reprise de l'école. Fousseni Diallo, coordinateur adjoint de l'établissement.
Chaque école a pris sa décision de lui-même. Certaines écoles ont dit aux enfants de venir de 3, d'autres ont dit de venir de 4. Cette position qui a fait que les élèves ne sont pas sortis, il faut au gouvernement aussi de prendre des mesures objectif, parce que c'est très difficile de dire aux enfants de venir tout juste le lendemain de la fête. C'est peut-être remettre la reprise au 9 et aller être effectif naturellement.
C'est le même constat dans plusieurs écoles de la rive droite de Bamako. Mais certains promoteurs acquisent plutôt les parents d'élèves. Dako Hélène Dambélé est responsable de l'école publique de Sabalibougou en commune 5 de Bamako.
Les enseignants sont là quand même, les élèves ne sont pas tous là. Quand j'ai posé la question qu'est-ce qui se passe, il y a certains qui étaient présents mais qui disent que la fête n'est pas encore terminé. Le message que moi j'ai pour les parents, c'est quand on donne une date officielle, qu'on respecte cette date.
Pour rappel, cette situation ne concerne pas que les écoles de Bamako. Elle est aussi signalée en région, notamment à Sikasso et plusieurs autres localités du centre et du nord du pays.
Allons à Yanfolila, la zone est un lieu de production de mangue. Sur place, le Centre d'études de développement agricole et industriel du Mali, CEDIAM, produit plus de 240 tonnes de jus de mangue par jour. Comment se fait donc la transformation du nectar de mangue? La réponse avec notre envoyée spéciale, Juliette Koulibaly, qui a fait une immersion dans cette usine.
Les mangues transformées par l'usine CEDIAM proviennent des champs de mangue des localités de Yanfoila, Bouguni, Sikasso et Kouchala. À l'arrivée, ces mangues sont stockées dans une chambre aérée avant la transformation. Ensuite, ces mangues sont mises dans une machine pour les rincer, puis l'étape de l'épluchage. Après cette phase, le jus est envoyé pour être produit en purée ou en jus concentré. Ce mécanisme prend fin au niveau des agents du laboratoire qui analysent le produit fini. Le jus est ensuite mis dans des fûts de 2350 kg pour l'exportation. Selon les responsables du CEDIAM, le produit fini n'est pas directement consommé au Mali. Lamine Diakité, responsable de l'approvisionnement au CEDIAM.
La transformation s'est faite en fonction de la variété, de chaque variété. C'est-à-dire la variété Amélie Kent, la variété Keït, la variété Beverly et la variété Bruce. On n'a pas de clients potentiels qui peuvent prendre une grande quantité. Raison pour laquelle on ne vend pas sur le marché malien. Les sociétés qui nous font de la commande, commandent à partir de 1000 tonnes, 2000 tonnes, 3000 tonnes, jusqu'à 5000 tonnes.
Toutefois, ce service est assuré par des femmes, des jeunes filles et des garçons. Tous affirment que ce métier a été une aubaine pour eux.
Ce travail m'a permis d'avoir un compteur et même de m'acheter un réfrigérateur.
Cette usine a été bénéfique pour nous. Nous parvenons à entretenir notre famille.
Nous parvenons à subvenir à nos petits besoins. Nous ne dépendons plus de l'argent de nos frères.
Malgré des centaines d'employés dans l'usine, les responsables déplorent toujours le manque de main-d'œuvre qui afflue vers les sites miniers. Notons que le CEDIAM n'est opérationnel qu'en période de manque entre le mois de mars et de juillet. De Yanfoila, Juliette Koulibaly pour Studio Tamani.
Quittons donc la région de Bougouni pour aller à Bla, où des coupures d'électricité sont très fréquentes dans la ville en cette période de canicule. Les populations dénoncent ces délestages qui sont devenus monnaie courante de jour comme de nuit. Les responsables locaux de l'énergie du Mali et des MSA annoncent des dispositions pour réduire la coupure d'électricité. Reportage de notre envoyé spécial à Bla, Moussa Malessi-Soko.
Des habitants de cette localité dénoncent l'irrégularité dans la fourniture en électricité. Si certains indiquent que ces délestages impactent les chiffres d'affaires des particuliers, d'autres estiment qu'ils paralysent les activités dans de nombreux services.
Je suis photographe. Il y a trop de coupures, surtout les soirs où il y a beaucoup de clients. C'est également des coupures à n'en point finir.
Ça nous gêne beaucoup et pendant la fête, nous n'avons pas pu travailler.
Le porte-parole du chef des villages de Bla, Issa Tangara, déplore le service rendu par l'EDEM-SA. Il ajoute que la coupure d'électricité cause de nombreux dégâts sur les appareils électrogènes.
Si l'énergie est là, mais en réalité, la ville d'abord n'est pas couverte à 100%. Même les 50% ne bénéficient pas de l'énergie. C'est un système de rotation entre les quartiers.
Pour le coordinateur local de l'EDEM, des mesures sont envisagées pour pallier ces difficultés. Souleymane Berthé annonce également des travaux d'extension de ces réseaux à travers la ville.
L'arrêt d'un groupe central qui a occasionné un des délaissages. L'information est remontée au niveau de la direction. En fait, nous avons deux groupes sur lesquels nous fonctionnons. On a des difficultés, on est obligé de délaisser sur certains quartiers de Bla.
En attendant, les populations de Bla prennent leur mal en patience. De Bla, Moussa Malessi-Soko pour Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, la République tchèque et par l'Union européenne.
Commençons le tour d'horizon de l'actualité régionale par Kuchala, où des sensibilisations en faveur de la paix sont diffusées depuis mardi dernier sur les radios de la place. L'objectif est de contribuer à favoriser le vivre ensemble et le retour définitif de la paix au Mali. L'activité s'inscrit dans le cadre de la campagne intitulée « Initiative pour la paix au Sahel ». Elle est initiée par les évêques du Mali. Elle s'effectue à travers le partenariat entre l'ONG Catholique Relief Service et médias catholiques du Mali. La diffusion devrait durer un mois. Terminons par Yorosso, où la saison des mangues bat son plein présentement dans le cercle, dans les marchés comme dans les rues. Le fruit de différentes qualités est vendu. Les clients trouvent les prix abordables. Un tas de 4 à 10 mangues est cédé à 100 francs CFA. Aujourd'hui, la vente de ce fruit est exercée par des filles. Elles estiment que l'activité est très rentable. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. Nouhoum Djiré assure la mise en onde. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site internet au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en bambara avec Aissata Diarra. Les prix de certains produits de première nécessité restent élevés malgré des dispositions prises par les autorités de la transition. À Bamako, le litre d'huile locale est vendu entre 1200 et 1300 francs CFA au quartier Kalabankoro. Au marché de Kalabankoro, le kilogramme de la pomme de terre est cédé à 400 francs CFA. La situation continue d'inquiéter les consommateurs. Ils demandent aux autorités de veiller sur les prix. Notre reporter Mahaman Babakunta a fait un tour dans quelques marchés suivants.
Au marché de Dibdani, en commune 3 du district de Bamako, les prix de certaines denrées alimentaires n'ont pas connu de baisse. Selon cette commerçante qui a souhaité garder l'anonymat, elle peut faire toute une journée sans faire de vente.
On achetait l'huile à 15 000 francs. Après, c'était vendu à 17 500. On s'est retrouvé finalement à 25 000 francs. Pendant la fête de Ramadan, les bidons étaient vendus à 31 000. Comment nous pouvons en tirer profit? L'importation de pâtes alimentaires est interdite. Pourquoi celle qui est fabriquée chez nous coûte cher? La pomme de terre n'est-elle pas cultivée à Sikasso? Les kilos étaient cédés à 300 francs. À la veille de la fête, les prix variaient entre 350 francs et 400 francs CFA. Certains l'ont même vendu à 600 francs.
C'est le même constat au marché de Kalabankoro. Ici, le kilogramme de la pomme de terre est entre 400 et 450 francs CFA. L'oignon est à 200 francs le kilogramme, comme l'affirme Aminata Bagayogo, commerçante.
Tout est cher ici. Il n'y a pas de marché. La pâte alimentaire, l'huile, tout est cher. Même avoir 100 francs de bénéfice sur l'huile, c'est difficile. La pomme de terre, pareil. Nous ne savons plus à quel sein se vouer. S'ils arrivent à trouver une solution, ça va vraiment nous faire plaisir. C'est dur de faire le commerce au marché de Kalaban.
Ces propos sont soutenus par des consommateurs. Ceux-ci demandent aux autorités de continuer à subventionner les commerçants.
Tout est cher, rien n'est accessible. Le prix des condiments a connu une grande hausse, même ceux qui sont produits au Mali. Les riz et les mille n'en parlent même pas. Les commerçants, si on les interpelle, ils nous expliquent que cela ne dépend point d'eux, mais des autorités. De nos jours, tout est cher au marché. On a même du mal à s'octroyer de quoi se mettre sous la dent. Nous implorons les autorités de penser à nous les pauvres, sinon ça chauffe.
Au même moment, certains citoyens expliquent cette flambée par les sanctions de la CEDEAO contre le Mali ou encore la mauvaise campagne agricole dans certaines localités. Sarbouya Menta, chef de famille.
Certes, le mois de Ramadan est fini, mais toujours est-il que le prix des produits est cher. Je pense que c'est dû aux sanctions et la mauvaise pluviométrie. De toutes les façons, on est obligé de supporter cette cherté et même ce qui nous arrive aujourd'hui. Car pour moi, mieux vaut souffrir dans la dignité que d'être dépendant.
En attendant la baisse des prix de certaines denrées, les consommateurs continuent de prendre leur mal en patience.